Notre Dieu, nous te remercions pour cette étude de ce soir. Je te prie, mon Dieu, que tu éclaires mes frères et sœurs qui viennent écouter sur le net, que ce soit ton esprit qui parle à chacun d'eux, et que, au-delà de mes paroles, l'influence de ton Saint-Esprit puisse toucher le cœur de chacun. Merci, Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Alors, on va commencer par Jean chapitre 10. Et verset 16, vous connaissez tous ce verset, c'est Jésus qui parle et qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi il faut que je les amène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Amen. Alors ce soir, nous continuons notre étude concernant le rétablissement de l'Évangile éternel, et le rétablissement donc de l'Église de Jésus-Christ. Et comme je vous l'ai enseigné dans les 6 prédications des vendredis précédents, la pierre que Daniel a vue, c'est donc, elle s'abat sur les pieds de la statue qui représente les divers gouvernements qui se sont succédés. Et c'est le royaume de Jésus qui vient s'établir sur terre. Et cela, c'est, on le sait, c'est très prochainement. Très prochainement, et heureusement, on est très content. Alors maintenant, on ne va pas donner de date, on n'est pas là pour ça, il y en a d'autres qui s'amusent à ça. Nous, on reste simplement sur la révélation que Dieu donne. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Mais il ne dit pas, Dieu ne fait rien sans avertir les gens qui font des calculs. Ou qu'est-ce qu'il y a, un micro qui ne va pas? Il est un petit peu trop... Je le tenais peut-être dans la main, ce sera mieux. Il ne dit pas « Dieu ne fait rien sans avertir ceux qui font des calculs mathématiques ou ceux qui font des... » Non, il dit « ses serviteurs, les prophètes ». Il ne dit pas « ses serviteurs, les eschatologues ». Non, « ses serviteurs, les prophètes ». Donc, pour préparer l'établissement de son royaume, c'est comme une pierre qui est jetée par aucune main. C'est-à-dire que c'est vraiment... La révélation qui vient et qui casse, qui commence à casser tous ces gouvernements, on a déjà parlé de ça. Et il commence par rétablir son Église, et il rétablit dans son Église, déjà, premièrement, les vérités éternelles qui ont été oubliées au cours des siècles et des millénaires. Alors, il faut, je le répète, mais si vous prenez cette prédication, si vous êtes tombé dessus et que vous n'avez pas écouté les 6 premières, qui concerne la pierre de Daniel, alors vous allez être choqué, ce sera dommage. Je pense que ça serait mieux que vous arrêtiez tout de suite et que vous commenciez par écouter la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Écoutez, quand vous regardez un feuilleton à la télévision, vous vous arrangez pour regarder le premier épisode avant le 10e. D'accord ? Donc c'est plus important avec la parole de Dieu si on veut y comprendre quelque chose. Et voilà, donc ces enseignements que je donne à ce sujet ont commencé le 20 mars 2016. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Alors si vous ne les avez pas écoutés, n'écoutez pas ce que je suis en train de dire là, coupez et allez au 20 mars 2016 sur Révélation Bible et puis vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, vendredi passé, je vous ai expliqué qui était Joseph Smith. Et ce soir, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le livre de Mormon. Je vous le redis, si vous n'avez pas écouté les autres prédications, écoutez-les. Sinon, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important, simplement, vous entendez Joseph Smith, « Ah, oh, quelle horreur !» Livre de Mormon, « Ah, quelle horreur !» C'est « Diablerie, satanerie, diantre !» Non, écoutez les autres prédications d'abord. Donc voilà, le livre de Mormon, c'est un livre ancien qui parle de personnes qui ont vécu au temps de la tour de Babel. Je vous rappelle que quand Dieu a restauré la terre, il n'y avait qu'un continent et une mer, Genèse 1, 9. Et quelque temps après le déluge, au temps de Péleg, la terre a commencé à se partager. Et on le sait maintenant, c'est des plaques, comment on appelle ça, tectoniques. On voit les cicatrices dans les fonds d'océan, etc. Et on voit que les formes s'emboîtent, bon, on sait. C'est une révélation hein, que Moïse a eue. Il ne pouvait pas regarder la map monde pour voir ces choses. Hein, donc, il l'a eue par révélation. C'est-à-dire que les continents ont commencé à s'éloigner les uns des autres, Genèse 10, 25. Et lorsqu'à la tour de Babel, les gens furent divisés dans leur langage, c'est écrit qu'ils sont partis chacun de leur côté, avec la langue qu'ils avaient, et ils se sont mis à vivre, certains, sur ce qu'aujourd'hui nous appelons le continent américain, qui ne devait pas être très très éloigné, n'est-ce pas, puisque ça commençait seulement à se séparer. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça, je ne sais pas comment ça s'est passé dans le temps exactement, la Bible ne parle pas. Ce groupe qui habita sur ce que nous appelons les Amériques, dès après la tour de Babel, ils ont formé un peuple appelé les Jarédites. C'est ce que le livre de Mormon nous enseigne. Et puis il y a eu un deuxième groupe de personnes qui ont quitté Jérusalem cette fois. Et cela 600 ans avant Jésus-Christ. C'était juste avant la déportation, n'est-ce pas, à Babylone. Dieu l'a dit à un homme qui s'appelait Néphi de prendre sa famille et de construire des bateaux et ils sont partis. Arrivés sur le continent américain, ils se sont divisés en deux peuples, les deux fils de Néphi. Il y a eu donc les Néphites et puis il y a eu les Lamanites. Après des milliers d'années, tous ont été détruits à part les Lamanites. Ils sont restés là et les Lamanites sont les ancêtres des Indiens d'Amérique. Tous les Indiens des Amériques ne sont pas les descendants de Lamanites, parce qu'il y a eu d'autres personnes aussi qui sont venues, et je vous parlerai, je vous expliquerai toutes ces choses-là, par un détroit en haut, dans le nord, je vous expliquerai. Mais quand les Jarédites sont arrivés, il y avait déjà... Il y avait d'autres personnes aussi. Enfin, voilà, c'est ce que raconte le livre des Mormons. Le livre de Mormon a été écrit par divers prophètes qui ont vécu donc sur le continent américain avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et c'est un nommé Mormon, donc un homme, un prophète, qui a terminé ses écrits et qui a donné la totalité de ses écrits, c'est-à-dire de tout ce qui avait été écrit par les autres et par lui-même, à son fils qui, lui, s'appelait Moroni. Alors, il faut simplement prendre des notes et puis se rappeler de ces noms. C'est nouveau pour vous, peut-être. Et ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Au bout d'un moment, moi, je nage dedans maintenant comme un poisson dans l'eau. L'événement culminant du livre de Mormon... C'est le ministère que le Seigneur Jésus-Christ a exercé en personne peu après sa résurrection. Il a exercé parmi les Néphites, qui étaient beaucoup parmi eux, étaient restés fidèles. Et tout ça, c'est consigné dans le livre de Mormon. Donc, le prophète Mormon a rassemblé tous les écrits des prophètes qui l'avaient précédé, et il a remis tout cela à son fils Moroni. Moroni a ajouté quelques écrits à ses annales sur des plaques métalliques et il a caché le tout dans une colline, la colline qui s'appelle Cumorah, qui existe toujours. Et puis les siècles ont passé. Je vous raccourcis tout ça, il y en a pour 650 et quelques pages dans le livre de Mormon. Donc c'est vraiment un raccourci, mais c'est pour que vous ayez une idée à peu près de ce qui s'est passé. Quand vous allez aborder ce livre, vous saurez déjà au moins ça et vous comprendrez un peu mieux. Alors, je récapitule. Mormon est un prophète, général des armées, historien, néphite. C'est-à-dire, il était descendant de Néphi, cet homme qui était arrivé 600 ans avant Jésus-Christ sur le continent américain. Il a vécu de 311 à 385 après Jésus-Christ, sur le continent américain, c'est clair. Il a reçu l'ordre de prendre en charge tous les écrits des prophètes qui l'avaient précédé sur le continent américain. Et Mormon a aussi écrit l'histoire de son époque. Et puis, il a remis le tout à son fils Moroni. Vous voyez, ça fait trois fois que je vous dis la même chose. Maintenant, je pense, ça y est, ça rentre. Moroni était donc le fils de Mormon. D'accord. Moroni a reçu de son père ses plaques, ses documents. C'était des documents historiques et prophétiques.
C'est un peu comme quand vous lisez l'Ancien Testament, voilà, ben, c'est aussi la même chose, c'est historique, c'est prophétique. Et y en a qui disent que ce qu'on trouve dans la Bible, on n'en trouve aucune preuve historique, etc., etc. Pendant des siècles, les scientifiques, n'est-ce pas, ont dit, mais il n'y a aucune trace du peuple juif à travers le désert pendant 40 ans, ils auraient quand même laissé une trace, ils étaient quand même très nombreux, il n'y a rien du tout. Puis maintenant, on trouve, donc les scientifiques, excusez-moi, bon, pour moi, c'est ce que la Bible dit en premier, hein. Et voilà, donc si les scientifiques viennent vous dire, bon, vous savez, au sujet du livre de Mormon, bon, les scientifiques sont gentils, mais ils n'ont pas toujours raison. Moroni a terminé la compilation des plaques que son père lui avait confiées. Il a ajouté 2 chapitres au livre de son père et il a abrégé et ajouté un livre qui s'appelle le livre d'Ether. Le livre d'Ether, en fait, c'est le livre qui traite des Jarédites. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est les Jarédites ?
C'est un peuple qui était sur le continent américain avant que les Néphites et les Lamanites arrivent.
Et qui était parti de la Tour de Babel.
Tour de Babel.
Voilà, bravo. Et il a ajouté son propre livre qui est appelé le livre de Moroni. Tout ça, vous trouvez dans le livre de Moroni. Puis Moroni a scellé ses plaques et puis il les a cachées dans la colline de Cumorah. En 1823, Moroni ressuscité. Est-ce que Dieu n'a pas le droit de ressusciter un mort ? Oui. Bon, Moroni ressuscité a été envoyé dans la chambre d'un garçon de 14 ans qui s'appelle Joseph Smith, dont je vous ai parlé la dernière fois, né dans une famille de fermiers, tout simple, qui travaillait dur, et il lui a parlé de ses plaques. Donc, on dit l'ange Moroni, pourquoi ? Parce que c'était un envoyé, un ange est un envoyé, voilà. Et en 1827, il lui a remis les plaques sur la colline de Cumorah, c'est-à-dire que la première fois qu'il lui a parlé, c'était 4 ans avant de lui remettre les plaques. D'accord ? Moroni lui parle, il lui montre les plaques, mais il lui dit « Tu reviendras chaque année, et je te parlerai, je te donnerai des instructions. » C'est seulement 4 ans après que le gosse qui avait grandi a pu prendre les plaques. Joseph Smith prend les plaques, il commence à les traduire en anglais. Il a commencé la traduction en avril 1828. Et en juin 1828, il arrête la traduction parce que son secrétaire, un certain Martin Harris, a pris 116 pages de ce livre pour les montrer à sa famille et puis elles ont disparu. Dieu avait dit ne fais pas ça. Et Joseph Smith Harris a insisté. Finalement, Joseph Smith a demandé encore à Dieu. Dieu lui a dit bon, fais-le. Et 116 pages ont été perdues comme ça. Et ça, c'est ce qui fait hurler de rire tout le monde parce que les 116 pages, Joseph Smith, Dieu lui a dit non, c'est fini. Tu ne les retraduis pas, c'est terminé. Alors. Il a recommencé, Joseph Smith, la traduction en automne 1828 et il l'a terminé en juin 1829, donc quelques mois. Et puis, il a remis les plaques à Moroni. D'abord, il les a montrées, Dieu lui a permis de les montrer à plusieurs personnes, je crois 11 personnes. Et c'est cela, le livre de Mormon, qui contient 653 pages, dans le livre français. Ce livre est l'histoire religieuse et historique des groupes de peuples qui ont émigré sur le continent américain, les Jarédites qui venaient de la Tour de Babel, les Néphites et les Lamanites qui sont arrivés 600 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi ne pas croire ça ? Une bonne question. Par ailleurs, nous croyons bien ce que les scientifiques nous racontent, que il y a plus de 10 000 ans, des chasseurs sont arrivés sur le continent américain en passant par le Beringique, je n'arrive pas à le dire. C'est un pont terrestre qui a existé plusieurs fois entre l'Alaska et la Sibérie orientale. Ça, c'est les scientifiques qui le disent. Voilà. Hein? Aujourd'hui, c'est un étroit bras de mer qui est appelé le détroit de Bering. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, ça ne me dérange pas. Les scientifiques le disent, je les crois. Et si un prophète parle, je crois aussi. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Bon, quand quelqu'un vient me dire une prophétie, j'écoute, je trie. S'il y a du faux, je dis, bon, ça, c'est pas juste. Hein. La Bible dit juger. Hein, juger. Donc, on juge. Ah, mais Michel, la Bible dit, il ne faut pas juger. Si, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, et surtout quand un prophète parle. Parce que sinon, n'importe quel schizophrène, n'importe quel imbécile ou profiteur peut venir nous raconter n'importe quoi. Et à ce moment-là, on marche, on court derrière et on se fait avoir. Le livre de Mormon nous dit que ces groupes étaient conduits par des prophètes qui ont écrit leur histoire religieuse et profane sur des plaques de métal. Le livre de Mormon raconte la visite de Jésus-Christ aux habitants de l'Amérique après sa résurrection. On trouve ça dans 3 Néphis 11. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le livre de Mormon, qui viennent de s'en procurer un, c'est à la page 526. Alors, après la visite de Jésus-Christ, il y a eu une période de 200 ans de paix. De paix. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont convertis. Et voilà, c'était une église extraordinaire qui était là. Moroni, le dernier prophète Néphi, a scellé l'abrégé des annales de ce peuple et les a cachés vers 421 après Jésus-Christ. Et c'est en 1823 que Joseph Smith les découvre et les traduit. Voilà, en gros, ce que c'est que le livre de Mormon, contenant ces 653 pages. Mais il y a plus. Ont été ajoutés à ces 653 pages, 355 pages d'un livre appelé « Doctrine et Alliance ». Alors, on verra de quoi il s'agit plus tard. Joseph Smith a reçu l'ordre de mettre en place l'Église telle que Jésus-Christ la voulait. C'était une communauté. Et régulièrement, il y avait des problèmes. Parce que quand vous avez une communauté, les gens qui sont ensemble, ça crée des problèmes très souvent. Et puis, ils avaient aussi des problèmes parce qu'ils étaient persécutés, rappelez-vous. Donc, ils se réunissaient et Joseph Smith, très souvent, prophétisait. Et beaucoup de choses qu'il a dites sont dans ce livre écrit qui s'appelle « Doctrine et Alliance ». Il a dit beaucoup plus de choses que ça. Et tout ça, c'est dans des bouquins que j'ai vus. J'en ai acheté un juste pour l'avoir, mais j'y comprends rien parce que c'est de l'anglais. Mais c'est des énormes bouquins, et avec Dominique, on les a vus, avec Michou, on les a vus, là-bas, à Salt Lake City, c'est immense. Il a reçu vraiment beaucoup, beaucoup d'instructions, beaucoup de choses. Et puis, ils ont rajouté aussi 74 pages appelées « Perles de Grand Prix », je vous dirai aussi ce que c'est plus tard, et puis 238 pages nommées « Guide des Écritures », c'est une sorte de lexique, plus des extraits de la traduction de la Bible faite par Joseph Smith. Il a commencé à traduire les Écritures. Mais pourquoi pas? Comment il s'appelle? Segon l'a fait, Darby l'a fait, comment il s'appelle? Alfred Quinn l'a fait, avec d'autres, ils se sont appliqués. Pourquoi pas Joseph Smith, après tout? Hein? Bon. Je pose toujours la question, pourquoi pas? Il faut arrêter de toujours dire, ah oui, 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 il a fait ça. Ben oui, voilà. Pourquoi pas? Et ensuite, il y a une chronologie et des cartes, des photos de l'histoire de l'Église. Enfin, voilà, tout ça, ça donne un livre de 1320 pages. Hein. Alors, si, c'est énorme, c'est énorme. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense que vous en avez qui vous viennent à l'esprit, puis il y en a d'autres qui vont venir à l'esprit bientôt aussi. Est-ce que c'est vrai, toute cette histoire? Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des tas de gens qui vous disent que Joseph Smith est un faux prophète, mais ils disent ça de tout le monde. Hein, tout le monde dit que l'autre est un faux prophète, voilà. Voilà, c'est tout. C'est bon. Et que son livre est un plagiat. Il y en a un particulier qui me fait mourir de rire. Il commence toujours son baratin comme c'est dit. L'autre jour, alors que je revenais du marché, j'ai rencontré un mormon et je lui ai posé la question. Et puis après, alors, il démonte, il démonte, il démonte, il critique. Puis vous allez un peu plus loin, puis vous dites, l'autre jour, alors que je revenais de la gare, j'ai rencontré un témoin de Jéhovah et je lui ai posé la question, et puis il démonte les témoins de Jéhovah, il les met en rondelle et voilà, il les diabolise. Et puis après, il fait un autre truc. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un baptiste et je lui posais la question. Alors, et il démonte les baptistes et tout. Voilà, ils ont le ministère du démontage. Voilà, ben voilà. Bon, moi, j'aime pas ce genre de truc. Il y a des choses bien partout, puis il faut trier, c'est tout. Il y en a d'autres qui disent que son livre est un plagiat. Alors, quand vous allez regarder ça, vous allez dire « Ah bon, il y avait un bouquin qui parlait d'une histoire à peu près semblable. » Ah oui, malheureusement, ce bouquin a disparu. Comme par enchantement, il a disparu. On ne trouve plus. Oh, c'est ballot. C'est comme la valise RTL, voilà. Et puis, alors d'autres disent « Oui, mais il a plagié pas seulement un bouquin, mais plusieurs, dont... » Alors, il y a un titre, vous allez voir sur Internet, allez regarder, c'est très amusant, vous allez perdre votre temps pour rien, mais c'est pas grave. Moi, j'ai perdu mon temps aussi, j'ai cherché, je voulais savoir. Alors, c'est l'histoire de... ça n'a rien de religieux. Ça donne juste... C'est un type qui écrit l'histoire de gens qui sont partis il y a très, très, très longtemps, puis qui ont découvert le continent américain, puis leur arrivée des histoires et tout. Voilà. Mais il n'y a rien de religieux dedans. Voilà, bah c'était un romancier qui avait une bonne idée. Bon, mais voilà. Est-ce que Joseph Smith a lu le livre? On ne saura jamais, à mon avis. Je ne pense pas. Parce que ça n'a rien à voir avec son bouquin, avec le livre de Mormon. Si vous demandez maintenant aux chrétiens qu'est-ce qu'ils pensent du livre de Mormon, ils vous diront tous que faut pas rajouter à la Bible. Voilà. Donc c'est un livre diabolique puisque les mormons considèrent leur livre comme si c'était la Bible. Voilà, donc c'est diabolique, c'est pas bien. Maintenant, par exemple, supposons que votre voiture tombe en panne, est-ce que vous allez demander à l'épicier du coin de la réparer? Non. Si vous il faut aller là où il y a l'information. D'accord? Il faut aller là où il faut... L'Internet, il y a trop d'informations. Les chrétiens ont des informations, excusez-moi, surtout les évangéliques, c'est de bas étage, c'est raplapla, il leur manque une case, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il faut se faire une idée personnelle. Il faut lire le livre, prier, demander à Dieu si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. C'est ça la démarche. Alors vous pouvez vous informer à gauche, à droite, ce n'est pas interdit. Mais voilà, bon, si vous êtes intelligent, vous allez vite voir que ce qu'il raconte, ce n'est pas terrible. Ils disent même que Joseph Smith a fait des corrections dans son propre livre. Rendez compte, quelle horreur! Ah bon? Parce qu'on n'en fait pas dans la Bible. Ah, on n'en fait pas dans la Bible. Jamais, non, non, jamais. Vous prenez une Bible du XIIIe siècle, elle est exactement la même que la version que vous avez aujourd'hui. C'est ça? Il faut arrêter d'être bête. Mais il y en a qui aiment bien. Qui l'a lu? Vraiment, qui l'a lu vraiment? Avec une bonne intention, en priant, pour savoir si c'est vrai. Parce que, mes frères et sœurs, si c'est vrai, se fier à ce que les gens racontent, très très peu pour moi. Des illuminés de tout poil, il y en a des tonnes, et il y a encore beaucoup plus d'ignorants, beaucoup plus d'ignorants que d'illuminés. Moi, j'ai qu'une vie, je veux pas perdre mon temps à écouter les illuminés puis les ignorants. Il faut aller à la source tout de suite, savoir, tiens, il y a un livre, ben je vais le lire, je vais me faire mon opinion moi-même et je vais demander à Dieu ce que c'est. Alors au commencement, quand j'ai rencontré le livre de Mormon, c'était il y a 17 ans, je doutais fortement. Et ben évidemment, c'est un réflexe normal d'un chrétien pentecôtiste. C'est un réflexe normal. En fait, c'était le verset d'Apocalypse 22, 18 qui me faisait problème. Apocalypse 22, 18 nous dit... Je le déclare, c'est Jésus qui parle. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Waouh ! Hein, on n'a pas envie d'ajouter ou de retrancher, hein, c'est grave là. Hein. Si on est croyant, on croit ça. Alors, maintenant, il est question, c'est écrit dans l'Apocalypse. Or, le livre de l'Apocalypse a été écrit aux environs de, on pense, 81, 96, après Jésus-Christ. À cette époque, le Nouveau Testament n'existait pas. Les lettres existaient, mais elles n'étaient pas rassemblées en un bouquin. Le Nouveau Testament, tel que vous l'avez, n'existait pas. Alors, ceux qui avaient l'Apocalypse et qui lisaient ça, qu'il ne faut rien rajouter, quand ils ont vu la compilation, ils se sont dit « Oh, ils ont rajouté l'évangile de Marc. Oh, ils ont rajouté les écrits de Paul. Oh, ils ont rajouté Jude. Oh, quelle horreur, ils sont tous damnés. Hein? » Je plaisante un peu, mais voilà, il faut arrêter d'être bête. Hein? Jésus, parlant à l'apôtre Jean, lui dit de ne rien ajouter aux paroles de prophétie de ce livre. De quel livre? Pas du Nouveau Testament, puisqu'il n'existait pas. Pas de l'Ancien Testament, puisqu'il n'était pas question de l'Ancien Testament, il était question du livre que Jésus dictait à Jean sur l'île de Patmos, du livre de l'Apocalypse que Jean venait de recevoir par révélation. C'est à la révélation qui est là-dedans qu'il ne faut rien rajouter. C'est pas dit, il ne faut rien rajouter à la Bible. Il ne faut rien rajouter à ce livre de prophétie. Je déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, voyez, voilà, est-ce que c'est plus clair? Plus tard, les théologiens ont rajouté à ce livre Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, etc. Et cela a donné ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et ces théologiens ont-ils ajouté aux paroles de prophétie du livre de l'Apocalypse? La réponse est non. Non, ils n'ont pas rajouté. Ils ont fait une compilation des écrits de certains apôtres. Il y a certains livres de certains apôtres, ils ne les ont pas pris. Ils les ont laissés traîner dans un coin parce qu'ils pensaient que ce n'était pas bien. Heureusement, maintenant, on peut se les procurer. Alors on va, par exemple... encore cet après-midi avec Michou, on était à L'Aigle, et à L'Aigle il y a un monastère, c'est ça, de trappistes, et là vous avez tous ces écrits sont là. Vous allez aussi bien dans les librairies protestantes sérieuses, tous les écrits sont là. On appelle ça les apocryphes chrétiens. Hein, donc si vous voulez pas les lire, libre à vous. Il y en a, on voit tout de suite que c'est pas inspiré. Et puis il y en a d'autres, on voit tout de suite que c'est inspiré. Mais voilà, il y a des gens qui ont décidé que ça, c'était ce qu'on appelle le canon. C'est-à-dire, ça commence à Matthieu, ça finit à l'Apocalypse. Et puis, voilà. Maintenant, les chrétiens évangéliques qui connaissent pas grand-chose, disent, il faut rien rajouter à ça. Voilà. Ils ont fait une compilation de plusieurs livres écrits par les apôtres. Et nous disons que cela est la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament. Pour ce qui est de l'Ancien Testament, quand Moïse a reçu la loi, Dieu a dit, on va le lire, c'est dans Deutéronome 4, 2, Deutéronome 4, 2, c'est pas ça, où est-ce qu'il est Deutéronome 4, 2, vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Qui c'est qui dit ça?
C'est Dieu.
Hein? C'est pas Pique-Époque, c'est Dieu. Vous n'ajouterez rien, vous n'enlèverez rien à ce que je vous ai prescrit. Il ne fallait rien ajouter ni rien ôter à la loi de Dieu. Or, quand Jésus est venu, il a dit, vous avez entendu dire dans la loi, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, pardonnez vos ennemis, etc. Et pour la consommation de porc, par exemple, dans la loi de Moïse, il ne faut pas manger de porc. Et puis, quand le Saint-Esprit parle à l'apôtre Pierre sur le toit, là-bas, il lui dit, si, tu peux manger maintenant. Ne dis pas que c'est impur si je dis que c'est pur. Ah ouais, mais t'avais dit que c'était impur. Ouais, maintenant je dis que c'est pur. Oh, alors faut changer la loi de Moïse. Quelle horreur. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit, hein? Vous voyez, c'est terrible, hein? C'est terrible. Et Dieu répète deux fois qu'il ne faut rien ajouter, rien enlever. Vous trouvez ça encore dans Deutéronome 13, 1. Bon, c'est important, il ne faut rien rajouter à la loi. Et Jésus se permet de le faire, Pierre se permet de le faire. Bon. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? C'est ça la question. Alors, est-ce que nous ne devons rien ôter ou ajouter à la Bible? Non. Oui. Ou est-ce que nous ne devons rien noter ou rajouter au livre de l'Apocalypse? Réfléchissez bien avant de répondre n'importe quoi, comme le font les moutons qui bêlent en répétant tout ce que disent les théologiens sectaires et les prophètes autoproclamés. Réfléchissez aussi à ce que Dieu dit à Moïse au sujet des adultères pris en flagrant délit, et puis à ce que Jésus dit lui-même. Réfléchissez-y. Soyez sérieux. Maintenant, quand je lis le livre de Mormon, est-ce que je rajoute à la Bible? Est-ce que je rajoute au livre de l'Apocalypse? Et quand je lis un livre de Billy Graham ou d'Osborne, ou quand je lis n'importe quel livre religieux, il y en a. Il y en a du pognon qui se fait dans les librairies chrétiennes. Hein? Est-ce que je rajoute à la Bible? Est-ce que je rajoute à l'Apocalypse? Non. Tout ce que je lis, je le passe au crible de la Bible. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Je le passe au crible de la Bible. Bon. Et je peux ainsi voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Maintenant, si Jésus est vraiment allé prêcher aux néphites sur le continent américain après sa résurrection, n'est-ce pas intéressant de savoir ce qu'il leur a dit? Maintenant, si c'est faux et qu'il n'y est jamais allé, qu'est-ce que je risque de m'informer en lisant ce livre? Vous lisez bien Tintin, Bernard Werber, et que sais-je, Paulo Coelho et compagnie. Pourquoi vous ne les riez pas? Pourquoi est-ce que vous... Alors, non, arrêtez. Avez-vous bien compris? J'espère que oui. Si vous n'avez... si vous avez suivi mes 6 dernières prédications, je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je pose une question cruciale maintenant. Est-ce que la Bible se suffit à elle-même pour prouver qu'elle est la parole de Dieu sans faille? La réponse est non. Parce que si la réponse est oui, alors pourquoi les diverses églises l'interprètent-elles si différemment? Et si le livre de Mormon était le message qui remettait tout en place? Si vraiment c'est un témoignage de Dieu aux gens de la fin des temps, comme il le prétend, le livre prétend être un autre témoignage de Dieu, de Jésus-Christ, pour les gens de la fin. Et si c'était vrai, comme c'est écrit dans le livre d'Enoch qu'on a retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte et qui prétend être un livre qui s'adresse aux gens de la fin des temps. Même dans ma communauté, là, il y en a qui ont fait une division à cause de ça en disant que ce n'est pas vrai. Ils ne croient pas au livre d'Enoch. Bon, mais ils sont libres de ne pas croire au livre d'Enoch. Moi, j'ai choisi d'y croire parce que je le trouve très bien. Très bien. Et on vous l'offre gratuitement, vous n'avez qu'à le commander, vous ne payerez que le port, c'est tout. Mais le livre, on vous l'offre. Vous commandez sur Révélation Bible et vous vous ferez une idée. Vous refuseriez d'en prendre connaissance à cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les théologiens qui se contredisent tous disent. Ouh là là, c'est compliqué cette phrase. Vous refuseriez de prendre connaissance de ce que Jésus aurait dit sur le continent américain simplement à cause de ce que les théologiens qui se contredisent tous les uns les autres disent? Excusez-moi, mais ça me fait rire. Peut-être que vous pensez que je pose des questions inconvenantes. Eh bien, c'est exactement ce que font les enfants. Peut-être vous pensez que je dis des sottises. Eh bien, c'est exactement ce que font très souvent les enfants. Peut-être vous pensez que je manque de maturité. Eh bien, c'est exactement le cas des enfants. Et je vous rappelle que Jésus nous a dit qu'il fallait qu'on redevienne des enfants. Il faut que nous soyons simples. Et là, je pose des questions directes qui vous mettent devant la simplicité. Il faut être simple. Alors, écoutez bien ça. Les idées que vous défendez publiquement, il va falloir vous efforcer de vivre en accord avec elles. Ne défends pas les idées des religieux qui, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont servis de la parole de Dieu que pour isoler les gens. Hors de notre religion, il n'y a pas de salut. Eh oui, eh oui. En disant, nous avons le plein évangile, nous avons toute la vérité, nous n'avons besoin de rien d'autre que ce que nous avons. En quelque sorte, ils disent, maintenant, Dieu ne parle plus, il ne dit plus rien. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit que ceux qui disent, nous n'avons besoin de rien, ne savent pas qu'ils sont pauvres, misérables, aveugles et nus. Apocalypse 3, 17. Est-ce que vous voulez écouter ces gens qui disent, il ne faut rien rajouter parce que c'est écrit dans l'Apocalypse, et il ne faut pas lire ce livre-là parce que c'est mauvais, et nous n'avons pas besoin de ce livre, nous avons tout ce qu'il faut dans la Bible. Nous n'en avons pas besoin. Est-ce que vous êtes de cette sorte de personne-là? Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas fini de parler. Tous les prophètes morts, les gens en général les aiment bien, hein, mais de leur vivant, ils ne les aiment pas tellement. Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Adia, Jonas, tous ceux-là, ils ont eu des problèmes de leur vivant, mais maintenant on dit, ah, ce qu'il dit, c'est parole de Dieu. Ah ouais, ben évidemment, il ne dérange plus personne, c'était pour autrefois. Excusez-moi, mais un prophète vivant, c'est beaucoup plus dérangeant. Vous allez me dire, oui, mais Joseph Smith est mort. Oui, mais il y a encore d'autres prophètes aujourd'hui qui parlent et qui témoignent que Ésaïe, c'est vrai, Ézéchiel, c'est vrai, et pourquoi pas Joseph Smith. Quand Jésus est venu en Israël, il a dit qu'il avait encore des gens qui n'étaient pas de cette bergerie ou de cet enclos et qu'il fallait qu'il aille vers eux pour leur parler. On trouve ça dans Jean 10, 16, c'est ce qu'on a lu au début. Et s'il parlait là de ceux qu'il est allé visiter sur le continent américain, et si c'était ça, pourquoi dire que ce n'est pas ça? Quelle preuve vous avez que ce n'est pas ça? Moi, je crois que c'est ça. Maintenant, je vais vous lire un autre texte dans Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 37, verset 15. Ça va, vous êtes bien, vous me suivez? Ça fait déjà 37 minutes que je parle, je ne vous embête pas trop. Ézéchiel 37. Là, ça, ce que vous entendez là, vous ne l'entendrez pas dans une église. Jamais vous entendez ça. Ézéchiel 37, 15. Je commence. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Quant à toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les Israélites qui s'y rattachent. Prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la communauté d'Israël qui s'y rattache. Rapproche-les l'un de l'autre pour n'avoir qu'un seul morceau de bois, afin qu'ils soient unis dans ta main. Lorsque les membres de ton peuple te diront « Ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais prendre le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent. Je les joindrai au bois de Juda, et je n'en ferai plus qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans ma main. » Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main devant leurs yeux, et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés, et pourquoi pas aux États-Unis? C'était des Juifs, pourquoi pas sur le continent américain? Je les rassemblerai de tous côtés, et je les ramènerai vers leur territoire, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, les montagnes d'Israël, etc., etc., et vous direz, jusqu'au verset 28, les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Mes frères et sœurs, le bois de Juda, c'est la Bible. La Bible a été à l'origine préservée par les Juifs, dont beaucoup étaient de la tribu de Juda. Le bois de Joseph, c'est le livre de Mormon. Léhi, qui a quitté Jérusalem pour le continent que nous appelons aujourd'hui le continent américain 600 ans avant Jésus-Christ, était descendant de Joseph. On trouve ça dans 2 Néphi 3, 12. Et aussi dans Alma 10, 3. Vous lirez. En effet, les deux fils de Joseph formaient deux tribus, celle de Manassé et celle d'Éphraïm. Donc, Néphi était descendant de Joseph. Dans Néphi 3, 40, il est question des premières annales qui sont la Bible, le premier morceau de bois, et des dernières annales qui sont le livre de Mormon, le deuxième morceau de bois, qui confirment la vérité des premières annales écrites par les apôtres de Jésus-Christ. C'est ce qu'on trouve dans 1 Néphi 13, 40. Et qui feront connaître les choses d'une façon claire et précieuse, ces choses qui ont été ôtées. Alors, je vais vous lire quelque chose, c'est dans 1 Néphi, donc tout au début du livre de Mormon, tout au début, 1 Néphi, ça va, vous suivez toujours, au chapitre 13. Je jongle moins bien qu'avec la Bible quand même, hein. C'est un gros bouquin. 1 Néphi 13, 24, et je lis. Et l'ange du Seigneur me dit, tu as vu que le livre sortait de la bouche d'un juif. Ce juif, c'est Jésus, on le comprend quand on lit tout le chapitre. C'est la parole de Jésus. Le salut vient des juifs. Et lorsqu'il sortit de la bouche d'un juif, il contenait la plénitude de l'évangile du Seigneur dont les 12 apôtres rendent témoignage. Et ils rendent témoignage selon la vérité qui est en l'agneau de Dieu. Ça, c'était prophétisé 600 ans avant la venue de Jésus. Vous allez me dire, mais comment il savait qu'il aurait 12 apôtres? C'était un prophète. Si vous ne croyez pas au prophète, je ne sais pas ce que vous faites avec votre Bible. C'est pourquoi ces choses sortent des Juifs dans leur pureté vers les gentils, c'est-à-dire vers les gens qui ne sont pas Juifs, selon la vérité qui est en Dieu. Et une fois qu'elles sont sorties des Juifs vers les gentils par la main des 12 apôtres de l'agneau, tu vois la formation de cette grande et abominable église qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres églises, car voici, elle a ôté de l'évangile de l'agneau beaucoup de parties qui sont claires et extrêmement précieuses, et il y a aussi beaucoup d'alliances du Seigneur qu'elle a ôtées. Et tout cela, elle l'a fait afin de pervertir les voies droites du Seigneur, afin d'aveugler les yeux et d'endurcir le cœur des enfants des hommes. C'est pourquoi tu vois que lorsque le livre s'en est allé en passant par les mains de la grande et abominable Église, il y a beaucoup de choses claires et précieuses qui sont ôtées du livre qui est le livre de l'agneau. Et je vous laisse lire tout le reste de cette prophétie. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de savoir, maintenant si vous n'avez pas envie de savoir, ben vous allez, ben vous oublierez tout ça, puis c'est bon. Lisons à partir du verset 34, toujours dans le même chapitre. Et il arriva que l'ange du Seigneur me parla, disant, voici, dit l'agneau de Dieu, lorsque je serai intervenu contre le reste de la maison d'Israël, et ce reste dont je parle est la postérité de ton père. C'est pourquoi, lorsque je serai intervenu contre lui en jugement, et l'aurai frappé par la main des gentils, et lorsque les gentils auront trébuché extrêmement, parce que les parties les plus claires et les plus précieuses de l'évangile de l'agneau auront été soustraites par cette abominable église, qui est la mère de toutes des prostituées, dit l'agneau, je serai miséricordieux envers les gentils en ce jour-là, de sorte que je leur ferai parvenir par mon pouvoir une partie considérable de mon évangile qui sera claire et précieuse, dit le Seigneur. Car voici, dit l'agneau, je me manifesterai à ta postérité et elle écrira beaucoup de choses que je lui enseignerai qui seront claires et précieuses, et lorsque ta postérité aura été détruite et aura dégénéré dans l'incrédulité et aussi la postérité de tes frères, voici, ces choses seront cachées pour parvenir aux gentils par le don et par le pouvoir de l'agneau. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est tout au début du livre de Mormon, c'est à la page 30, et ensuite toutes les choses ont été écrites jusqu'à la page 653, qui mettent de l'ordre dans les désordres qu'a organisé l'Église catholique et ensuite toutes ces dignes filles qui sont aussi des prostituées. Vous comprenez? Et maintenant, refuser cela, refuser cet autre témoignage de Jésus, c'est refuser l'huile nécessaire pour pouvoir partir dans l'enlèvement. Donc voici, ce livre de Mormon est ce morceau de bois de Joseph qui doit être ajouté au morceau de bois de Judas, la Bible? Vous le croyez ou pas? Difficile d'y croire juste parce que je vous le dis. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Jacques nous dit, si tu manques de sagesse, si tu ne sais pas, alors tu pries Dieu et il t'éclairera et te donnera la sagesse, il ne te fera pas de reproches. Il ne va pas te faire de reproches si tu lui demandes, Seigneur, avec une bonne intention, est-ce que c'est vrai ce que j'entends raconter? Est-ce que ce bouquin est vrai? Il ne va pas te faire de reproches, il va te le dire, il va te parler. Mais lisez le livre de Mormon pour que le Saint-Esprit atteste qu'il est vrai. Si vous ne le lisez pas, c'est comme si vous recevez le journal et que vous disiez, je ne crois pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je ne crois pas ce qu'il y a dedans. Excusez-moi, un hôpital psychiatrique pas très loin. Hein? Allez, simple, pour vous. Avant de dire des bêtises, il faut d'abord se renseigner et lire, et puis ensuite demander à Dieu, mon Dieu, Seigneur, éclaire-moi, donne-moi la sagesse. Ce soir, je vais terminer par une lecture dans le livre de Néphi. Il y a trois livres, Néphi a écrit trois livres. L'homme, donc, qui est parti de Jérusalem 600 ans avant Jésus-Christ, sur le continent américain. Il a écrit donc trois livres. Ces trois livres sont dans le livre de Mormon. Et voici la lecture de deux Néphi, chapitre 29. Mais voici, il y en aura beaucoup en ce jour-là où je me mettrai en devoir de faire une œuvre merveilleuse parmi eux, afin de me souvenir des alliances que j'ai faites avec les enfants des hommes, afin d'étendre une seconde fois ma main pour recouvrer mon peuple qui est la maison d'Israël, et aussi afin de me souvenir des promesses que j'ai faites, excusez-moi, à toi, Néphi, et aussi à ton père, que je me souviendrai de votre postérité et que les paroles de votre postérité iraient de ma bouche à votre postérité et mes paroles siffleront jusqu'aux extrémités de la terre comme bannière pour mon peuple qui est la maison d'Israël. Et parce que mes paroles siffleront, beaucoup de gentils diront « Une Bible, une Bible, nous avons une Bible et il ne peut y avoir davantage de Bible. » Mais ainsi dit le Seigneur Dieu, ô insensé, ils auront une Bible et elle sortira des Juifs, le peuple ancien de mon alliance. Et comment remercient-ils les Juifs de la Bible qu'ils reçoivent d'eux? Oui, qu'entendent les gentils par là? Se souviennent-ils des labeurs et des travaux et des peines des Juifs et de leur diligence vis-à-vis de moi à apporter le salut aux gentils? Ô gentils, c'est-à-dire gens des nations, vous êtes-vous souvenus des Juifs, le peuple ancien de mon alliance? Non, mais vous les avez maudits, et vous les avez haïs, et vous n'avez pas cherché à les recouvrer. Mais voici, je ferai retomber ces choses sur votre tête, car moi, le Seigneur, je n'ai pas oublié mon peuple. Insensé, qui dira une Bible? Nous avons une Bible, et nous n'avons pas besoin de davantage de Bible. Avez-vous obtenu une Bible autrement que par les Juifs? Ne savez-vous pas qu'il y a plus d'une nation? Ne savez-vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai créé tous les hommes et que je me souviens de ceux qui sont dans les îles de la mer et que je règne dans les cieux en haut et sur la terre en bas et que je fais parvenir ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la terre? Pourquoi murmurez-vous parce que vous allez recevoir davantage de ma parole? Ne savez-vous pas que le témoignage de deux nations est le témoignage pour vous que je suis Dieu et que je me souviens d'une nation comme d'une autre? C'est pourquoi je dis les mêmes paroles à une nation qu'à l'autre. Et lorsque les deux nations s'uniront, les témoignages des deux nations s'uniront aussi. Et je fais cela afin de prouver à beaucoup que je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que j'envoie mes paroles selon mon bon plaisir. Et parce que j'ai dit une parole, vous ne devez pas supporter que je ne peux pas en dire une autre, car mon œuvre n'est pas encore finie. Elle ne le sera pas avant la fin de l'homme, ni à partir de ce moment-là, ni jamais. C'est pourquoi, parce que vous avez une Bible, vous ne devez pas penser qu'elle contienne toutes mes paroles, et vous ne devez pas non plus penser que je n'en ai pas fait écrire davantage, car je commande à tous les hommes, à la fois à l'est et à l'ouest, et au nord et au sud, et dans les îles de la mer, qu'ils écrivent les paroles que je leur dis,
car c'est d'après les livres qui seront écrits que je jugerai le monde, selon chacun selon ses œuvres, selon ce qui est écrit. Car voici, je parlerai aux Juifs, et ils l'écriront, et je parlerai aussi aux Néphites, et ils l'écriront, et je parlerai aussi aux autres tribus de la maison d'Israël que j'ai emmenées, et elles l'écriront, et je parlerai aussi à toutes les nations de la terre, et elles l'écriront. Et il arrivera que les Juifs auront les paroles des Néphites, et les Néphites auront les paroles des Juifs, et les Néphites et les Juifs auront les paroles des tribus perdues d'Israël, et les tribus perdues d'Israël auront les paroles des Néphites et des Juifs. Et il arrivera que mon peuple, qui est la maison d'Israël, sera rassemblé chez lui dans les pays de ses possessions, et ma parole sera aussi rassemblée en une seule. Et je montrerai à ceux qui combattent ma parole et mon peuple, qui est la maison d'Israël, que je suis Dieu, et que je fais alliance avec Abraham, et que je me souviendrai de sa postérité à jamais. Amen. Amen.
Oh là là, mes frères et sœurs. Voilà, il vous reste trois choses à faire. Un, vous procurer un livre de Mormon. Deux, le lire. Trois, prier pour savoir si ce livre vient de Dieu ou pas. Seigneur Jésus, je te prie de tout mon cœur, pour que personne ne se bloque, et que personne ne se bloque, surtout parce que c'est moi qui le dis. Je te demande, mon Dieu, qu'il voie autre chose que simplement ma personne, mais qu'il voie l'Esprit, qu'il voie ton Esprit, dans toutes ces choses que tu es en train de faire à la fin des temps. Merci, Jésus. Amen.